Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne en direct. Hein. Je pense que vous êtes plus tous ou moins au courant, hein, pour ceux en tout cas qui me suivent, hein, sur Chromebook Live ou bien sur la chaîne. Hein. J'ai perdu la fibre il y a maintenant de ça 6 mois et je l'ai récupéré tout juste il y a 1 ou 2 semaines. Hein. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai récupéré, hein, mais ça allait vite in fine. Je déteste toujours autant SFR, hein, qui est responsable de l'infrastructure. Cela dit, ils ont fait juste une petite modification, ce qui m'a permis effectivement d'avoir cette fibre. Et bien sûr, je me suis empressé de préparer un nouvel épisode. Donc vous êtes dans l'épisode 8 de Chromebook on Live, donc la première émission francophone autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Hein. C'est vrai que je me souviens maintenant, on a lancé ce concept en début d'année, hein, pour sortir un peu de ma zone de confort, mais avec ce laps de temps où j'ai plus fait les lives, je peux vous dire effectivement, pour être transparent, que c'était un peu stressant de reprendre la main là-dessus, et j'espère que tout va très bien se passer durant ce live. Hein. Encore une fois, charte de bonne conduite, sur le chat, n'hésitez pas bien sûr à être bienveillant avec les autres, à vous exprimer de manière polie, convenable, hein, vis-à-vis de tout le monde. Hein. Vous pouvez toutefois dire que Apple c'est nul et que Chrome OS c'est parfait. Ça c'est validé. Hein, c'est validé. Non, on plaisante. On n'est pas des fanboys. On n'est pas extrémistes vis-à-vis des solutions, parce que même chez Apple on fait des belles choses. Mais c'est vrai que l'émission, le sujet, hein, quand même principal, eh bien c'est le Chromebook. Hein. Donc j'espère que vous allez tous bien dans le chat. Hein. Je vois que vous êtes une quinzaine de connectés en live. Hein. Bonsoir Damien, Sébastien, le Doom, Damtech également. Donc hein, durant ces quelques mois, du coup, en fait, je faisais uniquement une version podcast, hein, que je portais sur YouTube. Là, bien évidemment, cet épisode sera rediffusé sur YouTube, mais également porté au format podcast, j'espère peut-être demain ou après-demain, hein, selon le temps que j'ai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Fred de ChromebookLive.com, hein, donc où je traite bien évidemment des actualités, des astuces, plein de choses autour de l'univers Chromebook, Chrome OS, et j'ai également donc cette chaîne YouTube Tech Live où on fait des lives en régulier. Régulièrement, maintenant on va les reprendre plutôt, et une partie également podcast. Hein. Encore une fois, j'espère que vous allez tous très bien. Donc le principe, hein, de l'émission, c'est que eh bien, je vais vous parler, hein, de différentes actualités, faire finalement c'est une capsule, hein, avec un condensé d'actualités toujours dans notre écosystème, et bah, j'essaierai d'interagir au mieux avec le chat. Hein, et vraiment, je vous assure, vous m'avez manqué. Hein. Salut BadTech Creator au passage. Mais écoutez, on va démarrer. Toutes ces actualités, alors sans parler directement de matériel ni de système d'exploitation, hein, quand je parle de matériel Chromebook ou bien de Chrome OS, mais plutôt en fait d'un partenariat stratégique, hein, qui a été annoncé le 7 octobre ou le 6 octobre, hein, je ne sais plus, mais en gros fin de semaine dernière, où effectivement Thales, Google Cloud et Thales ont signé un accord, un partenariat stratégique pour proposer eh bien, une infrastructure dédiée sur le territoire français. Alors on va reprendre un peu les choses, hein, depuis le début. Hein. Une des grandes problématiques, je dirais, des organisations publiques et privées, hein, c'est la donnée. La donnée, hein, qui peut être plus ou moins confidentielle pour certains. Ainsi, il était difficile pour ces structures eh bien, de s'engager avec un Google, un Microsoft ou bien un Amazon, hein, parce que, effectivement, nous avons en face de nous les États-Unis et le Cloud Act et le Patriot Act qui permet, en quelque sorte, eh bien, sans forcément... Alors, pour l'un, je crois que c'est la justification terrorisme et qui peut être peut-être mal utilisée pour récupérer donc certaines données sensibles. Et il y a quelques temps, Bruno Le Maire s'était exprimé au sujet d'un cloud de confiance, à savoir donc permettre au travers d'un sorte de partenariat de franchise, hein, entre un acteur américain et un acteur français pour proposer en fait une solution, on va dire, d'hémergement de données sur le territoire. Hein. En tout cas, c'est ce que prévoit ce partenariat entre Thales et Google Cloud. Hein. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va, mais l'idée, c'est de créer une structure commune, donc le co-développement d'une structure avec une... Ah, j'ai Google qui réagit. Avec une participation majoritaire de Thales qui sera là pour contrôler et valider les mises à jour et les offres de Google sur le sujet. Donc, qu'est-ce que ça prévoit? Alors, quand on parle d'infrastructure dédiée, dès qu'on parle de Google Cloud, on pense forcément du cloud public et donc à de l'hébergement de données sur le serveur. Mais si on va un peu plus loin, ça peut sous-entendre aussi, eh bien, pourquoi pas la mise en place d'un Google Workspace localisé et donc qui pourrait profiter à beaucoup de sociétés françaises hein, qui n'ont pas finalement de vraies alternatives sur le marché français européen en termes d'outils de collaboration hein, qui soit aussi efficace qu'un Google Cloud ou bien qu'un Office 365. Quoique j'ai une préférence, vous vous doutez bien, pour Google, Workspace qui a été nativement en fait créé depuis le début hein, avec une orientation très SaaS. Et qui dit donc un pied, je dirais, dans Google Workspace, dit aussi l'ouverture potentielle vers les Chromebooks hein, pour les entreprises et pour l'éducation. Vous le savez très bien, en tout cas, enfin, pour ceux qui me suivent dans le monde, hein, les Chromebooks sont un succès au niveau des établissements, hein, K12, notamment aux États-Unis, où on a une part de marché qui est supérieure à 80%. Côté asiatique aussi, hein, Google Workspace plus les Chromebooks, hein, c'est une combinaison, si je ne dis pas de bêtises, qui a été choisie par le gouvernement. En Italie, on vous propose le choix auprès des écoles entre Office 365 ou bien Google Workspace. Mais on a une présence forte aussi des Chromebooks qui se rapprochent aussi en Espagne, en UK. Mais en France, ben, ça prend du temps. Et c'est avec ce genre de partenariat, eh bien, on va réussir à établir un cloud des confiances, donc avec des données qui sont hébergées par une entreprise française sur le territoire français. Donc, je ne sais pas si tout ça vous parle, hein, si vous êtes au fait un peu de toute cette partie cloud. Mais n'hésitez pas à intervenir sur le chat, mais j'ai trouvé ça effectivement intéressant de vous en parler parce que ça peut avoir des incidences en fait sur le marché du Chromebook à moyen et long terme. Maintenant, on va basculer bien entendu sur la partie matérielle, celle qui nous intéresse, je pense, plus, hein, notamment avec Lenovo hein, qui a annoncé la Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook. Alors, beaucoup d'entre vous au sein de la communauté m'ont souvent dit avoir acquis cette tablette. Hein, donc, pardon, la tablette initiale, la Lenovo IdeaPad Chromebook, hein, que j'ai testé également sur Chromebook Live. Donc, c'est une tablette, attendez, je vais vous montrer ça, qui est juste ici, hein, au petit format. Donc, c'est vraiment très mobile. Trois en un, donc avec un clavier et également un support pour pouvoir bien positionner la tablette en question. Et là, Lenovo s'est dit, bah, très probablement, hein, bah tiens, on a eu un bon succès avec cette petite version, et on va en sortir une en version 13,3 pouces, hein, donc ça veut dire qu'on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques. Enfin, je dirais qu'on est sur du détachable, hein, plutôt dans ce sens-là, mais autrement, on va avoir donc cet écran 13,3 pouces, on va avoir un écran OLED, donc qui va apporter vraiment une image de plus grande qualité, un meilleur rendu de couleur, l'HDR, mais aussi de l'autonomie, hein, ça faut le noter. Et ce Chromebook va également embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 7C génération 2. Donc Qualcomm est bien connu sur le marché du smartphone et effectivement permet d'avoir une meilleure autonomie dans le mobile, mais également sur Chromebook. Hein. Ils viennent d'arriver il y a peu de temps avec le Chromebook Spin 513, si je dis pas de bêtises, je l'avais testé celui-là aussi. Donc, en termes de caractéristiques techniques, donc on a ce processeur, on a également 8 Go de RAM, on peut aller jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Moi personnellement, ce que j'en pense, hein, enfin la tablette me hype énormément hein, et je la vois vraiment concurrencer, eh bien, l'iPad Pro. Alors, peut-être pas encore une fois sur les caractéristiques techniques, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur Chrome OS, donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très puissant pour fonctionner. On voit également qu'il y a un stylet hein, qu'on peut apparemment positionner derrière. Il doit y avoir effectivement un dispositif magnétique hein, pour pouvoir la coller au support et qui pourrait effectivement nous permettre de faire des dessins. Alors, on imagine sur Google Cursive, hein, on en reparlera un peu en fin d'émission, faire des dessins, prendre des notes. Et un prix plutôt abordable. Là, on est sur du 600 €. Alors, à vérifier si c'est 600 € ou 600 $. Mais en tout cas, elle est prévue pour les États-Unis normalement ce mois-ci. Et moi, d'après certaines informations que j'ai, eh bien, elle devrait arriver peut-être. Alors, soit je l'espère, le plus rapidement possible, mais il me semble que c'est fin d'année, hein, donc plutôt peut-être décembre. En tout cas, je sais que pour le petit frère, hein, il a été, je pense, très bien vendu, comme vous me l'avez dit, parce que beaucoup d'entre vous ont acheté cette tablette, et on a vu quand même pas mal de promotions sur Amazon, hein, je crois, à moins de 270 € cette petite tablette, mais par contre, on n'est pas sur du Qualcomm, on est sur du MediaTek, mais qui tourne très très bien, même pour que ce soit pour jouer à des jeux vidéo, ou bien faire vraiment des travaux sur le cloud. Je ne sais pas si déjà, certains d'entre vous l'ont peut-être hein, sur le chat, hein, pour ceux qui sont connectés, en tout cas bienvenue à ceux qui nous rejoignent, hein, je vois progressivement, et le Doom, oui, je l'ai, très sympa. C'est vrai que voilà, je préfère quand même personnellement avoir un vrai Chromebook avec le clavier qui soit vraiment tout en un pour travailler, mais c'est vrai que ça peut être une petite alternative. Si vous pouvez vous permettre de l'avoir en plus à la maison pour combler ce petit côté tablette et mobilité, hein, pour avoir un confort, on va dire, d'usage au niveau de la visualisation de vidéos, pardon, sur YouTube ou bien sur Netflix. Mais là, en 13,3 pouces, hein, vous imaginez le bordel à devoir le tenir, etc. Donc, faut voir effectivement le poids, ce qu'il en est et comment ça va comment ça peut se présenter. Autre news, alors je sais pas si vous avez vu c'est ma toute dernière vidéo. J'ai pu participer en fait à l'IT Partners 2021. Alors en quelques mots, l'IT Partners 2021, enfin l'IT Partners tout court, pardon, c'est un salon, c'est un événement qui est vraiment dédié aux professionnels de la distribution, alors distribution de solutions plus largement, enfin de licences, mais également de matériel informatique. Et j'y ai participé quasiment chaque année depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises, excepté l'an dernier à cause de Covid notamment. Et c'est vrai que bah là, en y participant cette année, j'ai pu constater vraiment l'évolution de la présence des Chromebooks à destination des entreprises. Et effectivement, on a une présence qui est accrue, que ce soit alors principalement de la part d'Acer et d'Asus, où Acer, il y a eu près de 13 appareils sous Chrome OS qui ont été présentés, parce qu'on ne parle pas que de Chromebook, on parle aussi de Chromebox et de Chromebase. Et chez Asus, on avait vraiment un corner dédié. Attendez, je vais vous lancer la vidéo au passage sans le son. Un corner dédié. Attendez. Dédié au Chromebook, aux couleurs vraiment, aux couleurs de Google, hein, avec les couleurs du logo, donc jaune, vert, bleu et rouge. Et alors, du coup, ça a été l'occasion de découvrir le Acer Chromebook 317, qui est le plus grand Chromebook du marché, et le premier hein, qui a été proposé encore une fois par Acer. Vous connaissez Acer sur le marché, hein, c'est ceux qui innovent le plus en tout cas et qui ont une plus large gamme de produits. Alors évidemment, ça va se destiner à des personnes qui ont besoin de pouvoir afficher tout d'un coup sur une seule image, ou bien pour des gamers, hein, comme j'ai dit sur l'article, mais bon, on est dans un contexte professionnel. En tout cas, il est imposant. Il y a bien entendu un clavier numérique. Hein. Vous avez imaginé pour des fonctions comptables ou de finance, hein, pouvoir travailler sur un grand Google Sheet, hein, l'équivalent de Excel, donc Tableur, avec donc le clavier numérique, pouvoir taper rapidement, travailler dessus. Et j'ai également alors découvert le Asus Chromebook CX9, qui lui est le flagship d'Asus, hein, c'est vraiment le terminal qui est high level, c'est le terminal high level du moment, avec une finition vraiment très premium. Hein. On est, je crois, sur du magnésium, hein, ça me fait penser au Pixelbook Go que j'avais testé. Et une des grosses innovations, hein, qu'on ne voit pas forcément très bien sur l'image à cause du balayage, eh bien, c'est l'inclusion du pavé numérique directement dans le pavé tactile, hein, ce qui permet en fait finalement d'avoir un châssis de 14 pouces tout en ayant en fait ce clavier numérique de présent. Hein. Et c'est assez intéressant de voir ça parce que finalement, bah, il n'y a pas qu'Acer qui est actif, j'irais, dans l'innovation, mais également Asus, hein, qui l'a déjà fait sur Windows et qui le porte sur Chrome OS. Donc j'espère pouvoir eh bien faire un test rapidement pour pouvoir vous le partager, bien entendu, sur Tech Live. Et j'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne, eh bien, en activant bien entendu la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est publiée ou dès qu'un live est en cours, est en préparation ou en cours de lancement. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ces quelques modèles hein, dont je vous ai parlé. Parce on va pas arrêter de parler Chromebook, hein, mais en tout cas sur la partie matérielle Chrome OS, hein, on va arrêter de parler parler de tout ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors je vois Raphaël, salut Raphaël. Désolé du retard, enfin le retour du live. Fred, toujours l'Evian. Non, alors non, ce n'est pas de l'Evian, hein, parce que je n'ai pas eu le temps d'en acheter, mais c'est de l'eau de source venant de Lidl. Hein. Mais attendez, bien sûr, il y a la bouteille d'eau et il y a le café brandé Chromebook Live. Enfin, je fais un peu de promotion, il faut bien. Alors, on va continuer avec une news aussi intéressante, mais qui est rapide, hein, qui je pense que, enfin, encore une fois, si vous me suivez sur Chromebook Live, vous êtes déjà au courant. Donc là, c'est Nikkei Asia qui affirme que Google va préparer eh bien, des processeurs à destination des Chromebooks. Alors, c'est évidemment pas déconnant, hein, tout en sachant que là, on a bientôt le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro qui vont être présentés, si je dis pas de bêtises, le 19 octobre à 19h. J'ai un doute là-dessus. Non, c'est à 19h, c'est sûr. Je sais pas si c'est le 19 octobre, mais ça va arriver, il me semble, soit fin de semaine ou la semaine prochaine. Et comme vous, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais ces Pixel 6 vont intégrer un SoC propriétaire, donc une plateforme propriétaire qui s'appelle Google Tensor et qui va permettre d'améliorer au travers du machine learning et de l'intelligence artificielle, eh bien, la prise de photos, la qualité des photos en mouvement, etc. Bref, on n'a pas encore toutes les données relatives à ça, ou en tout cas moi je les ai pas encore, je suis pas allé encore dans les précisions et j'espère qu'on en saura plus bientôt, en tout cas lors de l'événement, c'est certain. Mais en tout cas, donc Nikkei Asia nous dit que dans 2 ans, courant 2023, eh bien on verra des processeurs propriétaires sur Chrome OS. Donc effectivement, ça rentre dans une stratégie assez concurrentielle par rapport à ce que proposent typiquement les grands, hein, type Apple, Tesla, Baidu, Alibaba et Facebook. Hein, ils se sont tous lancés dans la production de processeurs ou bien de semi-conducteurs. Et bien entendu, Google devait aussi se lancer là-dessus parce que avoir son propre processeur permet en fait d'avoir une maîtrise complète en fait de son écosystème, donc avoir la maîtrise finalement de son système d'exploitation ainsi que du matériel pour faire en sorte que le système d'exploitation lui puisse tourner merveilleusement bien pour l'utilisateur final. Moi, je peux vous dire que je peux pas vous dire, mais en tout cas, ce que j'en sais, parce que j'allais faire un lien avec le Pixel 5, mais c'était pas bon. En tout cas, côté Apple, hein, c'est ce que Apple vend principalement, hein, c'est que il n'y a pas de constructeur, excepté Apple, qui produit de l'Apple. Hein, donc, ils sont vraiment fermés. Hein, pour rappel, sur Chrome OS, on est plutôt sur un système un peu hybride, hein, où effectivement, on a des constructeurs type Acer, Asus, Lenovo, Dell, HP, qui produisent des Chromebooks, mais les plateformes techniques sont validées eh bien, par Google. Donc c'est assez rigolo, là, notamment avec Windows 11, hein, quand j'entends que Windows 11, les exigences, c'est aussi d'avoir, je crois, une puce TPM2, hein, bah, sur Chrome OS, hein, depuis le... Alors, je vais pas vous dire depuis le début, à vérifier, hein, mais depuis de très longues années, ça fait partie des exigences de Google, parce que ça vous permet, en fait, de crypter vos données au niveau matériel et de gérer au mieux, je crois, l'authentification, hein. Il me semble qu'il y a ces aspects-là. En tout cas, ça aussi, c'était une news assez intéressante. Alors, je me permets de jeter un œil au chat. Plus de budget, Duet 10 pouces acheté pour ma fille. Donc voilà, on confirme effectivement le succès, hein, de la Lenovo IdeaPad Duet, hein, la première du nom, ce Chromebook. Oui, c'est ça, le 19. Ah, donc c'est bien le 19, l'événement, hein, qui annoncera la sortie du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Et qui sait? Alors je sais pas, il y a peu de leaks, mais on sait pas. Moi, je m'attends toujours à ce que peut-être un Chromebook sera présenté, grosse surprise, etc. Est-ce que vous y croyez? Ah, je me laisse un peu d'espoir, on sait jamais, même si finalement je serais déjà très très content de découvrir les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, parce que en termes de design, hein, franchement, pour le coup, hein, c'est un peu des mobiles un peu extraterrestres, avec la grosse ligne horizontale à l'arrière, mais surtout Google Tensor, à voir ce que ça va donner. Par contre, l'OS Android 12 en mode Material View, hein, je vous ai fait, ouais, mais entre temps il a évolué, mais sur TechLive je vous avais fait une vidéo pour vous présenter un peu les quelques évolutions de la première version d'Android 12. Là, franchement, je suis sur une version, bah, de toute façon on se rapproche de la sortie des mobiles, on est sur une version vraiment super super propre, avec ses côtés un peu arrondis, des widgets qu'on peut rajouter, mais des widgets un peu uniques, hein, qui qui sont peut-être, qui vont être peut-être propres au Pixel, j'en ai aucune idée, parce que moi je suis sur le Pixel 5, et on a aussi tout ce système de couleurs qui vont s'adapter en fait à vos couleurs d'arrière-plan. Sur le principe, c'est pas fou, mais c'est vrai que ça leur permet d'avoir un langage marketing autour de la personnalisation et de l'adaptation de l'OS par rapport à la personnalité de chacun. Donc si on met une image de Chromebook derrière, est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir du gris ou du gris. Enfin, de l'aluminium en couleur. Précommande du 17 au 27 et 28 en vente. Ah, super, merci Raphaël. D'ailleurs, pour la précommande du Pixel 6 vendu avec casque Bose, valeur 300 €. Ah ouais, le prix 649 normalement pour le 6 et 899 pour le Pro. Bah, 649, on arrive sur un prix qui est, moi je trouve, plutôt agressif, mais même finalement le Pro, s'il arrive à le baisser à moins de 900 €, enfin, il me semble que côté Apple, on est sur des prix supérieurs à 1 000 €. À vous de me dire, je suis pas, malheureusement, sur la partie smartphone, j'ai mes limites et j'ai pas forcément suivi le sujet là récemment. Salut Adam, Adam, pardon. Hâte d'avoir ce Chromebook entre mes mains avec Pixel 6 Pro. Oui, l'interopérabilité, elle va être bien. Et en plus, si Chrome OS évolue comme on l'a pu voir sur certains leaks, hein, on devrait même pouvoir émuler son smartphone directement sur Chrome OS. Et si je me souviens bien, c'est quelque chose, une feature qui serait uniquement possible avec un smartphone Pixel, si je dis pas de bêtises. Raphaël, toi aussi, avec ton Pixel 5, tu as perdu la météo à côté de l'heure sur la page accueil. Fred, je vais te dire ça de suite. Effectivement, je te le confirme, j'ai uniquement la date. Et pourtant, oui, et surtout, en fait, ça, je l'avais remarqué, si tu vas, en fait, ce qu'on va appeler, comment ils l'ont appelé, c'est la feature en bref. Si tu vas un peu plus loin, moi, ça bug, hein, au niveau des paramètres. J'ai plusieurs fonctionnalités avec des sliders qui sont activés, mais je ne sais pas de quoi on parle. Donc, encore une fois, Android 12 n'est pas sorti officiellement. Il le sortira avec les Pixel 6, donc on aura une version finale à ce moment-là. Jean-Michel Dubois, salut. Ça fait longtemps. Et en tout cas, je vois tes commentaires aussi sur Chromebook Live et il faut que je te réponde même sur Tech Live. Hein. Je les vois et je suis désolé, je prends un peu de temps pour répondre, mais je vais prendre un peu de recul et prendre le temps du coup. Je suis prêt au 6 Pro. Bah, écoute, basculer. Enfin, non, je ne vais pas vous vendre hein, forcément les Pixel 6. Enfin, le Pixel, hein, mais vous êtes sur un OS hein, qui n'a pas de surcouche. Tout se passe très très bien, il est super fluide. J'ai pas de problème particulier à vous dire. Et bon, Google est quand même réputé pour avoir un. Bah, ils ont été bons, hein, on va dire, sur la partie appareil photo, même si avec le temps, je crois avec le Pixel 5, ils ont eu quelques lacunes par rapport à la concurrence. Mais là, je crois qu'avec les objectifs là, qui sont poussés, je crois, par. C'est des caméras Samsung, hein, si je dis pas de bêtises, on va avoir quelque chose d'assez lourd, en tout cas similaire au Samsung. On va continuer alors sur. Ensuite, alors. Bon, je fais un peu auto-promo. En tout cas, maintenant, on reste effectivement encore un tout petit peu sur la partie matérielle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo test hein, de la Chromebox CTL. C'est la première fois que je teste une Chromebox sur la chaîne. Et comme vous avez pu le voir, j'ai commencé aussi à faire un peu d'unboxing, entre guillemets, parce que j'ai le support, j'ai tout ce qu'il faut au niveau du matériel pour pouvoir le faire. Et ça me permet en fait de changer hein, tout bonnement le contenu. Donc CTL, hein, c'est un fabricant américain d'appareils sous Chrome OS, hein, c'est un constructeur hein, qui propose donc ces appareils sur le territoire nord-américain, mais qui tend à s'étendre aussi du coup sur les territoires européens. Donc j'ai pu avoir l'occasion, enfin j'ai testé donc la CTL Chromebox X CBX2. Hein. Vous imaginez bien qu'avec de l'Intel Celeron et 4 Go de RAM, ça peut être un peu compliqué, mais c'est assez étrange parce que sur certains Chromebooks, j'ai bien réussi à faire fonctionner certains jeux du Google Play Store. Là-dessus, disons qu'on va être vraiment sur du traitement assez léger. Donc vous allez pouvoir bien entendu regarder des vidéos, travailler sur le web, sur Chrome. Par contre, j'ai pas réussi à faire tourner des jeux. J'ai eu ça a lagué, ça a ramé. Je vous laisse regarder ça si vous ne l'avez pas fait directement sur la chaîne. Mais et je vais essayer par contre à l'avenir, je sais pas si ça peut vous intéresser. Il faut que je me procure en fait une barrette de RAM que je rajouterai directement, je démontrerai en fait la Chromebox. Je pourrais vous le proposer en contenu vidéo. Enfin déjà, enfin je suis curieux de voir un peu comment ça fonctionne. Mais normalement il y a un emplacement pour pouvoir rajouter soit une deuxième barrette, soit de remplacer la première par une barrette un peu plus conséquente. Alors ensuite. On va parler, on reste sur la partie matérielle, mais on va plus vraiment parler de Chromebook, et j'ai trouvé ça, je pense, intéressant culturellement de vous présenter ça. En tout cas, moi j'adore parce que ça évolue, hein, c'est de l'innovation et c'est de la technologie. Aujourd'hui, en entreprise, hein, vous avez des dispositifs de visioconférence en salle de réunion, donc ça vous permet, notamment avec Covid, hein, ça a grimpé encore. Bah non, ça n'a pas grimpé encore plus parce qu'on était tous à la maison, hein. Mais en tout cas, ça a démocratisé la visioconférence, et beaucoup d'entreprises se sont équipées, eh bien, de dispositifs vous permettant tout bonnement, enfin, ça consiste en quoi? C'est d'avoir finalement une caméra, un haut-parleur, un microphone, donc dans des petites, moyennes, grandes salles de réunion. Donc on peut bien entendu élargir les accessoires, hein, selon les différents dispositifs proposé du côté soit de Microsoft ou bien de Google en l'occurrence. Et pour Google, en fait, c'est couplé à l'application Google Meet, hein, donc visioconférence, mais également à Google Agenda. C'est-à-dire que vous pouvez directement à partir de Google Agenda réserver une salle. Lorsque vous rentrez dans la salle, vous avez une tablette tactile, vous appuyez dessus et ça lance automatiquement la visioconférence avec donc vos pairs, vos collègues. Et là-dessus, on est, comme je vous l'ai dit, hein, le dispositif, il est classique, microphone, caméra, et également unité centrale qui permet de faire fonctionner tout ça, hein, je l'oubliais. Et là, on a Google Meet, donc l'entité chez Google qui s'occupe de ces dispositifs, qui a collaboré avec Avocor. Alors, je ne connaissais pas, mais Avocor apparemment est un fabricant de solutions d'affichage interactive, hein. C'est allié avec eux pour proposer deux nouveaux produits qui m'ont l'air tout simplement sexy, qui ont l'air vraiment très très sexy, qui changent, hein, je pense, des dispositifs un peu classiques. Donc on a tout d'abord le Google Meet Series One Desk 27, qui est en fait tout bonnement un écran de 27 pouces que vous allez placer soit sur un bureau, soit, alors attendez, est-ce que j'ai une image, soit en salle de réunion. Alors vous voyez, on est plutôt sur des mini, sur des petites salles de réunion, qui est en fait finalement un all-in-one, hein, c'est un tout en un avec donc l'écran tactile, enfin l'écran qui est tactile, le microphone, les haut-parleurs, etc. Toute la partie processing est à l'intérieur, donc vous avez, je vais pas parler de microcontrôleur, mais vous avez la carte mère qui est dedans. Et donc ce que vous pouvez faire avec, c'est bien entendu lancer vos visioconférences, mais vous avez en fait de multiples usages. Donc typiquement utiliser l'application Jamboard directement là-dessus. C'est pour ça que vous avez un stylet en bas. Jamboard, en fait, initialement, c'est un couple de solutions de tableaux blancs numériques. Donc normalement, c'est un gros tableau blanc numérique sur lequel vous pouvez effectivement faire du brainstorming, décider tout en étant connecté en visio avec quelqu'un. Donc là, c'est intégré directement là-dessus. Apparemment, vous pouvez aussi passer des appels et surtout, vous pouvez aussi connecter un Chromebook. Donc ça peut servir d'écran secondaire, donc à la maison. Mais bon, je crois qu'on est sur des prix. Voilà, on est à peu près à 2000 dollars. Après, effectivement, on n'ira pas. Ça intègre quand même pas mal de technologies. Le produit est premium, à définition premium, et c'est la volonté de Google Meet, hein, d'aller vraiment sur des produits un peu plus premium. Donc voilà, voilà pour ce premier produit, hein, je sais pas ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pas. Bon, moi j'aime bien en parler, je pense que ça, au lieu de parler seulement de Chromebook, là on reste sur l'écosystème Google, mais c'est des solutions aussi qu'on voit au quotidien, en tout cas dans les entreprises. Et ils ont sorti aussi Google Meet, Avocor avec Google, donc là Google Meet Series One Board 65, donc c'est rien d'autre qu'un Jamboard. Donc je vous parlais tout à l'heure du tableau blanc numérique, hein. On est sur ce système de tableau blanc numérique qui est mobile, hein, avec des roulettes, donc vous pouvez le déplacer d'une salle à une autre, donc vraiment axé brainstorming, et qui permet par contre aussi de faire de la visio. Donc en fait, grossièrement, très grossièrement, c'est le desk 27 qu'on agrandit et qu'on rend mobile. Donc vraiment, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'encore une fois, ça avance technologiquement sur sur le secteur des dispositifs de visioconférence, et on va voir avec le temps si ça marche, hein. Pour rappel, moi je travaille un peu je travaille, hein, chez un distributeur, hein, de matériel sous Chrome OS, et forcément on parle aussi de cette partie visioconférence qui est très intéressante. J'ai testé les Google Glass récemment. Donc les Google Glass, hein, qu'est-ce que c'est? C'est des lunettes de réalité augmentée, donc qui permettent en gros de vous assister dans des opérations. Moi, j'ai testé en fait la version Enterprise Edition, donc vraiment destinée à des professionnels. Mais en même temps, j'ai du mal à me dire que les Google Glass pourraient servir dans un contexte grand public. En tout cas, dans ce format-là, c'est un peu grossier, hein, très clairement. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça astucieux. en termes de composition, rien d'innovant sur le principe parce que on est en fait finalement sur, sur de la combinaison de technologies, donc on va dire d'un semi-conducteur, enfin d'un microcontrôleur et d'une batterie qui est en fait finalement sur cette branche située à droite avec cette petite encoche hein, qui fonctionne sous la forme de mirroring un peu à la manière de ce que vous avez dans certains véhicules type BMW où vous avez un affichage tête haute. Hein. Et en fait, vous avez, comme vous pouvez le voir, cette encoche qui apparaît au-dessus à droite de votre œil droit et qui vous permet tout bonnement eh bien, de profiter sans vous gêner eh bien, d'une assistance. Alors de contenu ou d'une assistance, hein, parce que l'intérêt, c'est typiquement d'être assisté par quelqu'un alors que vous êtes en train de faire une opération type. Vous travaillez sur, vous faites une réparation. Alors moi, dans le cadre de la vidéo hein, que j'ai exposée sur Tech Live, j'ai tenté de réparer une GameCube en visioconférence. Bon, bien évidemment, c'est moi qui ai joué les deux acteurs, les deux personnes. Donc là, ce que vous avez en dessous, c'est effectivement ce que je vois au travers des lunettes, et au-dessus, c'est ce que voit l'autre personne lorsqu'elle est connectée au Google Meet. Et on peut interagir au travers d'un microphone et des haut-parleurs qui sont sur la Google Glass. Et donc dire, bah tiens Fred, arrête de faire des bêtises, n'appuie pas sur le bouton du Stream Deck qui annule le live, mais plutôt dévisse la vis de gauche sur la GameCube. Donc en usage entreprise, c'est très pertinent. Grand public, c'est trop grossier encore. Et tout en sachant hein, qu'il faut, bah, s'il y a une caméra qui est intégrée, il faut de la transparence vis-à-vis des personnes qui sont en face de vous. Hein. Un peu comme les lunettes là, qui sont sorties, je crois, de Facebook, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est super cringe. Hein. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que j'ai vu certains testeurs le faire et ça a été remonté par des Américains. Mais c'est vrai que vous êtes là avec vos lunettes et là, vous avez un voyant vert qui s'active. Et donc, on est là, enfin, on a l'impression de passer en fait pour un voyeur. Donc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je voulais faire ce test absolument, découvrir ces Google Glass, parce qu'on a l'impression d'être dans le futur. Mais encore une fois, rien de transcendant en termes d'innovation. C'est surtout une bonne combinaison, je dirais, de technologies qui convient à des usages, là, en l'occurrence, en entreprise. Je vendais mon Pixel 4 XL. Ah oui, c'est pour me rappeler des sujets qu'on traitait, hein, le bon coin sur Tech Live. C'est OK ici aussi. Heureusement, Fred a payé Orange, enfin. Oh, arrêtez, les mecs. Oh. C'est même pas, c'est vraiment pas ça. Et le pire, c'est que j'ai voulu prendre des forfaits fibres les plus gros, hein, mais même ça a pas fonctionné. C'était top de nous montrer les lunettes Google. Ah, merci Jean-Michel. Vraiment, enfin, moi, ça m'a fait plaisir de les tester. Je pense que c'était intéressant de vous les partager. Bon. Un peu d'auto-promo hein, pour ceux qui arrivent sur le live. Hein. Il y en a certains qui sont partis depuis que j'ai éteint le live sans faire exprès. C'est pas grave, on reste entre nous. Auto-promo, bah écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, encore une fois, hein, c'est Fred de ChromebookLive.com si vous voulez avoir des actualités sur les Chromebooks, activités régulières, parce que c'est vrai que je donne de ma personne pour rédiger tous ces articles très régulièrement même. Mais également, vous avez donc la chaîne YouTube hein, sur laquelle vous êtes en ce moment, où effectivement je fais pas mal de reviews de matériel, mais également, alors pas seulement Chromebook, mais aussi plus largement. Donc là, vous avez vu les Google Glass, j'ai testé une serrure connectée parce que j'étais hyper curieux de voir un peu comment ça fonctionnait. Bref. Il y a de tout et de n'importe quoi, mais surtout du Chromebook. Et j'espère vraiment pouvoir tester très prochainement l'Asus Chromebook CX9. Je regarde à nouveau le chat avec Lens, le top, tout à fait, oui. Raphaël, l'IDPad Duet est juste génial en hommage. Je l'ai toujours et depuis un an, toujours au top. Ouais, non, non, mais il n'y a pas photo. Il est vraiment bien. Alors, je regrette de ne pas l'avoir. Bon, de pas l'avoir quoi, mais bon, enfin, écoutez, j'ai déjà le Spin 713 et il me va très très bien, j'en ai aussi d'autres, mais c'est suffisant, enfin. Sinon, après, on n'arrête plus avec les Chromebooks. On va continuer maintenant, on va basculer sur la partie un peu software. Alors, pour ceux qui sont sur Chrome OS, donc je pense que vous avez reçu la mise à jour Chrome OS 93. Hein. Donc là, on va parler, on va faire un petit résumé, effectivement, de cette mise à jour, qui n'est pas transcendante dans l'absolu. Hein. Pour moi, c'est une mise à jour qui est mineure, il n'y a pas de grosses features. Donc, dans un premier temps, il y a effectivement l'optimisation des appels vidéo avec Google Meet. On en parlait tout à l'heure avec les dispositifs de visioconférence, mais là, c'est vraiment propre à Chrome OS. Donc, une optimisation, je pense, des flux vidéo. On n'a pas trop de précision sur le sujet. Il y a les arrière-plans vidéo qui sont arrivés. Je ne sais pas si vous les utilisez, vous, au quotidien, alors soit personnellement ou bien dans un contexte d'entreprise. Hein. Bon, ça, c'est assez sympa. Donc on a un petit arrière-plan avec des petits bonhommes, des fruits et légumes dans un contexte de classe. Donc ça anime un peu tout ça. J'ai pas testé pour voir si on peut rajouter ses propres contenus vidéo. Par contre, bon, ça, depuis pas mal de temps, on peut changer au moins l'arrière-plan et de se mettre. Ce que j'aimais faire, c'est de mettre en fait dans un stade de, dans un, comment on appelle, dans un court de NBA ou bien dans un stade de foot. Ça, c'est marrant parce que, bah, ça, si on l'aligne bien, on a l'impression d'être un commentateur sportif. Et avec les clients ou les partenaires, c'est assez rigolo. Google Meet aussi au passage préinstallé sur Chrome OS, normalement vous l'avez de base après cette mise à jour. Ensuite, on a un nouveau raccourci pour les emojis hein, sur Chrome OS, mais même sur Windows. Hein, là sur Windows, hein, si vous voyez normalement mon écran. Ah, vous n'avez pas le clic droit. Ok, donc il ne m'affiche pas le clic droit, mais normalement même sur Windows, on est censé avoir une option pour pouvoir ajouter des emojis. Est-ce que c'est peut-être... Attendez, je vais juste essayer. Ah oui, il faut être sur une zone de texte pour pouvoir voir l'option apparaître. En tout cas, il y a un nouveau sélecteur d'emojis qui était apparu sur Chrome OS 92, donc qui vous permet donc de choisir votre emoji, etc. Un peu à la manière d'un smartphone. En tout cas, c'est plus sympa que ça l'était auparavant avec le clavier virtuel qui s'affiche. C'était un peu lourd et je trouvais ça assez lent hein, lorsque vous passiez d'une page d'emoji à une autre. Là maintenant, on est sur quelque chose de plus petit, plus sympa, plus rapide. Et là par contre, on peut directement les afficher avec le bouton de recherche. Donc ça, c'est le bouton, le Everything Button, là, qui permet de tout faire sur Chrome OS, que vous allez coupler avec la touche Maj et Espace pour pouvoir l'afficher. Ce que je regrette toujours, hein, comme je le mets dans l'article, hein, et ça c'est dommage, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas encore fait ce travail de localisation, c'est de pouvoir, en fait, vous avez une barre de recherche hein, pour retrouver vos emojis. Et bah, c'est toujours en anglais. Donc moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu, mais c'est vrai que ce serait plus pratique pour des franco-français qui sont pas très à l'aise avec l'anglais, bah, pour que lorsque vous tapez doigt, et bien on vous affiche tous les emojis en forme de doigt pour dire la direction en haut, en bas, etc. Voilà, là c'est toujours en anglais, donc faut faire finger. Bon, moi, certaines fois, j'utilise les logos, enfin les emojis, pardon, caméra et micro, mais bon, ça s'utilise notamment. En anglais, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, en tout cas, voilà, petite nouveauté. De nouveaux fonds d'écran. Encore une fois, hein, comme je vous le dis, on est sur quelque chose de mineur. De nouveaux fonds d'écran, donc qui prônent l'unité, hein, parce que Google, vous le savez, ils sont vraiment à cheval sur les différences, typiquement des collaborateurs ou bien de leurs utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont proposé quelque chose en ce sens avec des artistes et des illustrateurs plus ou moins connus. Hein. Donc voilà, vous êtes censé avoir dans l'espace des fonds d'écran cette partie, ce segment unité. Donc voilà, il y a des choses qui sont plutôt sympas, qui sortent de l'ordinaire, qui sont un peu exotiques. Donc je ne sais pas si vous les utilisez, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ensuite, plus de fichiers dans TOT, en effet. Alors TOT, si vous voyez mon image, c'est ce petit espace, enfin ces petites icônes, hein, lorsque vous cliquez dessus, ça va ouvrir cette zone là où il y a écrit capture d'écran et téléchargement. C'est en fait un peu la zone, c'est un peu la zone du moment. C'est-à-dire que lorsque vous téléchargez un fichier ou bien lorsque vous faites un screenshot, eh bien ils vont rapidement se stocker ici, enfin ils vont être visibles dans cette zone là pour vous éviter ensuite de les atteindre au travers de l'explorateur de fichiers ou autre. Donc c'est clairement une zone un peu de raccourci et sur laquelle vous pouvez aussi épingler des fichiers. Et donc, vous avez cette partie screenshot, la possibilité d'épingler des fichiers, la partie téléchargement, et maintenant vous allez pouvoir aussi stocker directement les fichiers que vous aurez scannés. Hein. Je l'ai fait tout à l'heure, typiquement, je devais scanner un document, hop, il s'est retrouvé dans la partie TOT et également eh bien, les rapports hein, PDF qui sortent de l'application diagnostique. Donc, why not? C'est plutôt. Bah moi, je trouve ça. Enfin, c'est bien parce que ça rentre dans cet esprit hein, de TOT. Mais avec TOT, on peut faire aussi pas mal de choses et on y reviendra en fait en fin d'émission. Et ensuite, alors, dernière chose, c'est que vous allez pouvoir aussi redimensionner des applications Android. Donc ça, c'est uniquement si vous avez la version d'Android 11 qui est installée et que vous installez de nouvelles applications. Donc vous devez désinstaller les anciennes et réinstaller les nouvelles. Donc certaines applications de base, alors comment vous dire plutôt, au-dessus, tout en haut de l'application au niveau de l'en-tête, hein, entre guillemets, vous allez avoir la possibilité de changer, en fait, de redimensionner automatiquement une application, de manière à ce qu'elle soit mobile, tablette ou grand écran et malléable à souhait. Donc ça va dépendre en fait de comment a été développée l'application. Donc si par exemple on prend, si je dis pas de bêtises, Instagram ne peut pas être modifié sur Chrome OS. Donc vous allez toujours avoir un affichage sous format un peu conteneur comme si vous étiez sur mobile. Par contre, pour les autres où effectivement au niveau du développement, il y a eu soit une précision ou pas du tout de précision, je ne sais pas exactement, mais en tout cas vous allez pouvoir redimensionner vos applications Android à votre convenance, hein. Et encore une fois, tout dépend de ce qui a été précisé là-dessus. Alors, je ne sais pas si parmi vous, bah, je pense que vous avez tous basculé sur Chrome OS 92 pour les utilisateurs de Chromebook. Mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé très clairement de tout ça. Alors, je vais jeter un œil un peu au chat pour vous voir où vous en êtes, si vous êtes en train de continuer à vendre des produits. Alors, on pourra mettre ces vidéos en arrière-plan dans Bid. Ben non, c'est la bonne question, Jean-Michel. Hein, c'est la question que je me posais, si effectivement on peut ajouter des vidéos en arrière-plan. Merde, j'étais remis au début de la vidéo, j'étais en différé. Ah bah bravo, Raphaël. Ah bah, alors là, t'as manqué énormément de choses. Non mais tu pourras revenir à souhait par la suite lorsque la rediffusion sera à nouveau disponible. Ah, je suis quand même dégoûté, hein, d'avoir raté, d'avoir appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Désolé encore une fois pour tout ça. Android 11, oui, mais non. Alors là, par contre, Jean-Michel, il va falloir apporter des précisions parce que tu es contradictoire dans ce que tu dis. Oui et non. Pour le moment, enfin, moi, il n'y a pas de. C'est vrai que sur Chromebook, j'utilise peu les applications du Google Play Store, peut-être pour jouer de temps en temps. À quoi je pense? Je suis en train de regarder ce que j'ai. Pour faire du RDP via l'application RDP en fait de Microsoft, donc pouvoir faire de la connexion à distance sur du Microsoft. Qu'est-ce que j'ai ensuite comme application? Ensuite, après, j'ai principalement, oui, j'ai du Netflix, ok, mais après, c'est principalement des applications en Progressive Web App, hein, que j'ai sur mon Chromebook et également des applications Linux, hein, parce que la machine virtuelle, moi, elle est activée de mon côté. Ah oui, la question est sur ton site. Ah, je me souviens. Je me souviens. Eh bien, écoute, je m'y pencherai à nouveau, Jean-Michel. Dominique, je ne savais pas qu'il fallait réinstaller les applis pour avoir la barre de redimensionnement. Tout à fait. Donc ça, c'est. En fait, tu l'as sur les nouvelles applications que tu installes, Dominique, ou bien réinstaller celles que tu as. Donc là, il faut s'assurer, bien entendu, d'avoir Android 11. Ah oui, peu de gens sont en 11 et plusieurs en Android 9. Et alors écoute, là-dessus, je ne sais pas en fait ce qui peut permettre de basculer sur Android 11. Hein, je pense le côté récent de certaines plateformes techniques. Mais en tout cas, c'est le cas pour le Spin 713. Alors, pas immédiatement. Hein, je suis arrivé, je crois, quelques jours plus tard ou une semaine après que certains aient déjà déclaré Ah, mais si, j'avais commencé à vouloir te répondre, Jean-Michel. Et j'avais même trouvé une liste de devices déjà compatibles Android 11 hein, sur Chrome OS. Et je ne sais plus s'il y avait aussi un planning de déploiement prévisionnel pour les autres modèles, mais je regarderai ça. Ou n'hésite pas à regarder sur Google, tu trouveras peut-être l'information là-dessus. On va continuer sur la partie OS. Donc avec alors en parler du sujet de la restauration. Il peut être possible qu'un jour vous ayez un problème avec Chrome OS. Hein, je sais pas, vous achetez un Chromebook, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'en sais rien, ou qu'il y a un problème d'affichage, aucune idée. Et vous devez, enfin l'idée, enfin la première approche, c'est de restaurer votre Chromebook. Alors le principe de restauration, hein, c'est que vous devez créer en fait une image qui va être basée sur le modèle que vous avez. Et ensuite, cette image, vous devez l'extraire, la mettre sur un périphérique externe, type une clé USB ou bien une carte micro SD. Hein, tout dépend des entrées que vous avez, des ports que vous avez sur votre Chromebook. Et ensuite, au démarrage, eh bien, il faut lancer il faut lancer cette phase de restauration. Et là, récemment sur un commit, eh bien, il y a quelques informations intéressantes qui ont été dévoilées. Donc là, je vais vous lire rapidement le commit et je vais vous dire, enfin, moi, ce que j'en ai compris. Ajouter un ch nouveau chemin de boot au sein du mode de restauration manuelle activé par la combinaison de touches CTRL-R. Dans ce chemin de boot, un noyau de restauration mini OS est situé sur le disque interne et une tentative est réalisée pour vérifier et démarrer le noyau. La restauration se lance à partir du noyau mini OS en téléchargeant une image de restauration à travers le réseau. Pas de disque USB utilisé durant le processus. Ce qu'on comprend donc, c'est qu'il y a un mini OS hein, qui est venu s'incruster, alors qu'on sait que sur Chromebook, on a en fait deux OS qui tournent constamment, un qui est celui actif et l'autre qui va permettre de faire les mises à jour et de remplacer le principal s'il y a un problème. Et là, on parle d'un mini OS qui peut, suite à l'activation de la combinaison de touches CTRL-R, être sollicité pour tenter de vérifier. En fait, ouais, la restauration se lance à partir du noyau. Pour en fait tenter de récupérer une image, la bonne image hein, finalement de votre modèle directement à partir d'Internet. Et ce qu'on nous dit, bien entendu, c'est pas de disque USB utilisé durant le processus. Donc là, c'est une chose qui peut être vraiment très intéressante parce que bah, du coup, ça nous fait moins d'action. On n'a pas besoin d'avoir un périphérique externe pour pouvoir le faire. Donc voilà, enfin, c'est une news qui est, je trouve, assez intéressante et qui montre encore une fois que Chrome OS va dans le bon sens si effectivement c'est bien ça qui est mis en avant. En tout cas, au vu de ce qu'on a lu, hein, normalement, ça devrait être le cas. Donc, je vois Dominique, effectivement, il y a une liste de devices compatibles, Jean-Michel. Hein. Merci Dominique pour l'info. Effectivement, elle existe normalement. Autre news, alors là, ça va être assez rapide, mais encore une fois, on a un commit, donc une information liée à une évolution, qui fait référence à la préparation de clavier Chromebook, hein, qui inclut pardon, une touche dédiée pour rendre le microphone muet. Donc en gros, c'est l'adaptation, bien entendu, de Chrome OS pour pouvoir gérer la feature au travers de cette touche. Donc vous imaginez, alors déjà aujourd'hui, hein, on a bien trois touches dédiées au son, donc celle qui permet d'augmenter et de baisser le volume et d'éteindre le son directement. Donc je pense que le microphone peut être clairement pertinent, notamment encore une fois dans ce contexte où on utilise beaucoup de solutions de visioconférence, bah, ça peut être la solution rapide de couper son microphone au lieu d'aller directement sur la solution et de le faire au niveau software. Là, vous le faites entre guillemets au niveau hardware. Par contre, ce qui serait bien, alors je sais pas, ça risque d'être peut-être moche ou lourd, mais bah non, sinon on le fera directement sur l'OS, mais qu'on nous indique bien que le microphone est coupé ou activé pour pas dire de bêtises lors d'une session de visioconférence avec vos collègues ou avec vos amis. Alors, autre chose, alors là, qu'on attendait, je pense, un peu tous, hein, et j'attends de voir vos réactions dans le chat, en tout cas, si c'est. Je pense qu'on l'attendait vraiment tous. Hein. Le launcher, donc, comme vous le savez, hein, c'est ce qui est appelé launcher, c'est tout bonnement, en fait, le listing de vos applications sur Chrome OS, hein, un peu comme l'équivalent du menu démarrer sur Windows. Il y a un truc qui manquait, très clairement, et qui, je pense, techniquement parlant, n'est pas difficile à faire hein. Et je ne comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps et c'est toujours pas arrivé hein. Là on parle du channel de développement Chrome OS, c'est effectivement la possibilité de faire un tri alphabétique, alléluia. Enfin, j'ai envie de vous dire, là si vous voyez ma souris hein, au niveau de l'image, vous avez en fait deux chevrons qui vous permettent de faire un tri alphabétique croissant, puis un tri alphabétique décroissant. Plus vous allez vers la droite, vous passez en fait du croissant au décroissant. Si vous cliquez sur le chevron de gauche, vous allez passer du décroissant au croissant. Donc ça, c'est applicable bien entendu avec toutes les applications, mais également les dossiers. Mais les dossiers qui passent en priorité, qui passent devant toutes les applis et au sein même de ces dossiers, eh bien vous avez un tri alphabétique qui est fait. Donc ça, c'est une fonction clairement incontournable parce qu'à chaque fois, franchement, hein, je ne cherchais plus, je passais pour ch rechercher une application, je passais par la barre de recherche quand je l'avais en tête. Mais quand vous voulez découvrir un peu où vous vous souvenez d'un logo, mais pas du nom de l'application, vous deviez à chaque fois dérouler les pages. Là, dans mon exemple, là, j'ai que deux grandes pages, hein, mais il y a eu des moments où, enfin, là, je crois sur mon Spin 713. Ah, et je suis passé sur la nouvelle version du launcher, mais j'avais, je crois, 4-5 pages, tout en sachant qu'elles n'étaient pas toutes, en fait, elles n'étaient pas toutes complétées par des icônes et par des applis. Donc là, franchement, ça va faire gagner du temps. Et alors, ce que j'aimerais aussi, hein, si Google nous entend, c'est de pouvoir faire aussi un tri au niveau, je dirais, du poids de l'application. C'est important si vous souhaitez en fait désinstaller, si vous êtes à court d'espace de stockage, pouvoir directement faire cette désinstallation logique à partir en fait du launcher. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est une fonctionnalité incontournable qui a pris du temps quand même à émerger. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer, on va dire, dans une partie, alors après vous avoir parlé un peu du matériel, également de l'OS, avant de terminer cette émission, hein, et alors on va pas faire finalement, enfin complètement terminer l'émission, l'idée c'est terminé, on va dire, cet enregistrement, mais on continue le live, hein, pour pouvoir échanger un peu ensemble, parler un peu de ce que vous avez comme Chromebook, de ce qui vous tente un peu en ce moment. Donc restez, hein, jusqu'à la fin et on va continuer, on va bien entendu continuer après. En tout cas, on bascule sur une partie un peu astuce. Astuce, et notamment comment profiter pleinement de Todd sur Chrome OS. Alors, je ne le savais pas. Donc, pour moi, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Todd, c'est simplement cette possibilité d'avoir des raccourcis sur des fichiers. J'ai découvert en allant un peu plus loin qu'en fait, on peut directement utiliser ces fichiers et faire du drag and drop, bien sûr des documents typiquement Google Workspace, ou bien directement ajouter une pièce jointe en fait sur un mail. Donc c'est quelque chose qui est finalement tot et vraiment ultra pratique. Attendez, je vais vous le montrer en plein écran. Ouais, vous avez la vidéo, attendez, je vais vous faire parcourir tout ça. Hop, pardon. Donc voilà, je peux faire en fait un drag and drop d'un screenshot que je viens de réaliser. Donc ce qui est super pratique, notamment pour moi, dans le cadre de la rédaction des articles sur ChromebookLive.com, eh bien je peux faire directement un drag and drop d'un screenshot que je viens tout juste de réaliser. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, je l'ai découvert tout récemment. Vous étiez peut-être déjà au courant, mais en tout cas, moi, c'est tout récent et c'est vraiment plutôt sympa et en fait, finalement, très, très utile. Autre astuce, hein, pour revenir, on en parlait tout à l'heure d'Android 11, comment connaître la version d'Android 11, hein, peut-être que certains d'entre vous se posent la question. Alors là-dessus, c'est assez simple, il y a plusieurs étapes, mais il suffit tout d'abord d'atteindre les paramètres de Chrome OS, de faire une recherche en tapant préférences Android, hein, ce qui va vous amener en fait à pouvoir gérer les préférences. Donc vous cliquez directement sur gérer les préférences d'Android et là vous allez arriver finalement sur des paramètres clairement liés à Android, hein, comme si vous étiez sur smartphone, et vous allez avoir un listing des paramètres et des options possibles. Et il suffira d'aller dans la section à propos de l'appareil pour vérifier en fait, pour obtenir la version d'Android. Là en l'occurrence, sur ce que je suis en train de vous montrer, on est sur le Spin 713, donc celui pour lequel j'ai effectivement la version 11 d'Android d'installer directement dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour vérifier si vous l'avez et si vous pouvez du coup profiter en fait du redimensionnement des fenêtres Android. Autre astuce est assez intéressante, parce qu'on avait parlé de Google Cursive, hein, qui avait été annoncé être, on va dire, exclusivement préinstallé avec la Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook, hein, que je me trompe pas au niveau du naming. Et en fait, il y a une petite astuce, hein, que mes confrères en fait de Chrome Unbox avaient trouvé, hein, mais ce qui est assez logique, parce que si on parle de PWA, on a forcément en fait une adresse web qui est liée à cette application. Et vous pouvez en fait, si vous avez un Chromebook, vous avez tous quasiment un Chromebook, vous pouvez en fait directement atteindre l'URL suivante, donc cursive, https, deux petits points, slash, cursive.apps.chrome/. Et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter la PWA. En haut, vous êtes censé avoir une petite icône sur le côté droit de votre barre d'adresse pour installer la PWA et en fait finalement l'utiliser comme si vous l'aviez en fait sur la Lenovo. Donc finalement, cette exclusivité saute en quelque sorte. Et moi, je l'avais effectivement testé sur le HP Elite C10 30 Chromebook que j'ai testé sur la chaîne et ça fonctionne parfaitement bien parce qu'en fait, dans l'absolu, ça n'a aucune dépendance matérielle, hein. C'est une PWA donc qui est atteignable par le web et donc il vous suffit bien entendu idéalement d'avoir un écran USI et d'avoir un stylet adapté pour pouvoir vous adonner à de la prise de notes, à du dessin. Alors sur cursive, hein, on n'est pas sur du Photoshop pour faire du vrai dessin, mais on est vraiment, comme je vous le dis, hein, faire du sketch un peu, de la prise de notes, pourquoi pas réfléchir, je sais pas, faire des schémas, des petits schémas d'architecture intérieure, mais voilà, des schémas. Hein, on n'est pas sur quelque chose de professionnel, et je pensais effectivement intéressant de vous partager cette news ce soir. Donc on va arriver, eh bien, au terme de l'émission. Ce qui ne signifie pas qu'on va arrêter le live, parce qu'on va continuer, je pense, tous ensemble pour un peu échanger, hein, pour ceux qui vont pas aller se coucher de sitôt. Alors moi non plus, hein, je vais pas non plus trop tarder. Mais l'idée, voilà, c'est d'échanger un peu tous ensemble. Désolé encore pour ce problème technique, moi qui croyais qu'il n'y en aurait pas. Hein, j'ai fait un bon lancement pour ce 8e épisode, mais malheureusement, encore une fois, cette touche du Stream Deck, il va falloir que je la change. Je pense que je vais la changer, je vais même la changer de dossier, hein, pour pas que j'aie ce risque-là. Mais en tout cas, bah, écoutez, c'est avec l'expérience et avec ce genre de situation qu'on évolue. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié tous ces différents contenus, hein. L'idée, encore une fois, c'est de se faire ce condensé d'actualité, hein. On reproduira un peu la même chose, je l'espère, le mois prochain ou selon la densité, en fait, finalement, d'actualité sur les sujets. Et puis j'ai envie de vous remercier encore une fois pour votre présence, pour ce retour en live. Hein. J'ai la fibre et je vais pouvoir même m'en profiter pour jouer un peu à Stadia parce que, écoutez, il y a eu quand même quelques jeux un peu sympas. On y reviendra après, on va en discuter juste après, notamment Control que j'aimerais bien tester. Il y a eu Star Wars aussi que j'avais récupéré. Donc voilà, merci encore une fois pour votre présence durant ce live. Restez connectés. Encore une fois, on va partager un peu, on va échanger encore une fois ensemble là-dessus. Allez, ciao, bye bye.